France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Souad Boukorsa, Alexandre Billard et Olivier Dehay. Voici la cinquième et dernière émission de notre série consacrée à la vie de Napoléon Bonaparte parcourue en musique. Et ce dernier épisode sera consacré à la chute de l'Empire, l'exil à Sainte-Hélène, la mort il y a deux siècles et la postérité. Une histoire de Napoléon Bonaparte que nous reprenons en 1813 après la désastreuse retraite de Russie qui a décimé la Grande Armée. Napoléon est maintenant confronté à une sixième coalition européenne réunissant le Royaume-Uni, l'Autriche, la Russie, la Suède de Bernadotte, devenu le roi de Suède Charles XIV Jean, mais aussi la Prusse. La Prusse dont l'armée est formée notamment de ce cor franc des chasseurs de Lützow, chanté par Karl Maria von Weber. L'ensemble vocal « Les brigands » dit Roy Byrne, dirigé par Gus Anton, chantait ce bref chœur de Karl Maria von Weber sur un texte d'un certain Michael Bach, célébrant la chasse sauvage de Lützow, Lützows wilde Jagd. Adolf von Lützow dirigeait un corps franc dont le prestige sera immense dans ce qu'on appelle la Befreiungskrieg, la guerre de libération, dans cette campagne d'Allemagne de 1813, à l'issue de laquelle les armées napoléoniennes devront se replier en France, non sans avoir livré des batailles meurtrières à Lützen, Bautzen, Dresde ou encore Leipzig. Nous y reviendrons. Mais voici un musicien qui nous accompagne depuis le début de la semaine, c'est Beethoven, des premiers leaders patriotiques en 1797, au Concerto L'Empereur en 1809, composé sous la canonnade française, en passant bien sûr par la célèbre dédicace raturée à Bonaparte dans la troisième symphonie, l'Héroïka. Voici maintenant un Beethoven plus combatif que jamais et qui répond à une commande pour célébrer la victoire d'Arthur Wellesley, vicomte de Wellington, sur les troupes de Joseph Bonaparte lors de la bataille de Vitoria dans la partie espagnole du Pays Basque. Victoire qui marque la fin de la guerre d'indépendance espagnole avec la retraite de l'armée française dont nous avions évoqué les exactions, dépeintes notamment par Goya. Tout comme le fera Tchaïkovski dans l'ouverture 1812 qu'on écoutait hier, Beethoven va accompagner son orchestre de coups de canon et même de coups de mitraille, étant tout à fait lucide sur la modeste qualité musicale de cette partition qui avait obtenu beaucoup de succès à sa création. On reconnaît les Britanniques à leur chant « Rule Britannia » et les Français à la chanson « Malbrook s'en va en guerre ». Alors sur France Musique, voici l'opus 91 de Beethoven, Wellington's Sieg, la victoire de Wellington par l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Prévenez les voisins, ça va péter. Et lors de la création, sachez que Hummel était à la grosse caisse et Antonio Salieri au tambour et canon. L'orchestre philharmonique de Berlin était dirigé par Herbert von Karajan dans La victoire de Wellington ou La bataille de Vittoria de Beethoven. Revenons sur France Musique en Europe centrale lors de cette campagne d'Allemagne de 1813 que j'évoquais tout à l'heure avec le corps franc de Lützow et cette musique de Karl Maria von Weber. Campagne d'Allemagne avec des milliers de morts, d'anonymes et puis avec ses martyrs comme le poète et dramaturge Theodor Körner, volontaire dans l'armée prussienne et qui meurt au combat à 21 ans le 26 août 1813. Près de la ville de Lützow, lui qui était membre de ce corps franc, Lützowsches Freikorps, évoqué par le chœur de Karl Maria von Weber qu'on écoutait tout à l'heure. Aussitôt après la mort de Theodor Körner, ses poésies sont rassemblées dans un recueil qui aura beaucoup de succès au 19e et même au 20e siècle sous le titre « La lyre et l'épée », « Lyre und Schwert ». Des poèmes dont certains seront mis en musique par Schubert ou Karl Maria von Weber. De Schubert, nous écoutons tout d'abord le chant d'épée, Schwertlied, sur un poème de Körner chanté par Christophe Prégardien.
O Schwert an meiner Linken, was soll dein heiteres Blinken? Schaust mich so freundlich an, hab meine Freude dran. Schaust mich so freundlich an, hab meine Freude dran. Drum blink ich auch so heiter, bin freien Mannes wir, das freut dem Schwerte sehr, bin freien Mannes wir, das freut dem Schwerte sehr. Hurra! 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 Lass mich nicht lange warten, o schöner Liebesgarten, Röslein blutig rot und aufgeblühtem Tod, voll Röslein blutig rot und aufgeblühtem Tod.
Hurra! Hurra! Hurra!
Wohl auf, ihr kecken Streiter, wohl auf, ihr deutschen Reiter, führt euch das Herz nicht warm, nehmt's Liebchen innen an, führt euch das Herz nicht warm, nehmt's Liebchen in den Arm.
Hurra! Hurra! Hurra!
Nun lasst das Liebchen singen, das Hände funken springen, Hochzeit morgen graut, hurra, du Eisenbraut, der Hochzeit morgen graut, hurra, du Eisenbraut.
Hurra, hurra, hurra.
Musik Schlage. Hier steh ich an den Marken meiner Tage. Gott, wie du willst, dir hab ich mich ergeben.
Après le Schwertlied, le chant de l'épée, sur un poème de Theodor Körner, Deutsch 170 du jeune Schubert, chanté par Christophe Prégardien, nous entendions là le ténor Michael Schade avec le pianiste Malcolm Martineau, qui chantait un autre lied sur un poème de Körner, Adieu à la vie, Abschied vom Leben, de Karl Maria von Weber, sur un poème prémonitoire de Theodor Körner, mort au combat contre les armées de Napoléon, à 21 ans, le 26 août 1813.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Deux mois plus tard aura lieu la bataille de Leipzig, qu'on appelle aussi la bataille des nations, car elle a opposé d'un côté l'Empire français, le duché de Varsovie avec Poniatowski, qui meurt d'ailleurs noyé pendant la retraite, les royaumes d'Italie, de Naples, et le royaume de Saxe, qui entre-temps va changer de camp. Et puis de l'autre côté, il y a les membres de la 6e coalition, les empires russes et autrichiens, le royaume de Prusse, qu'on a cité, et ce royaume de Suède, dont le roi Charles XIII n'avait pas d'héritier naturel. Alors le Parlement suédois lui avait choisi pour successeur Jean-Baptiste Bernadotte, maréchal d'Empire, donc l'un des hommes de Napoléon, et futur roi de Suède. Un roi qui décide d'ailleurs de tourner les armes contre Napoléon en privilégiant les intérêts suédois. Bernadotte deviendra officiellement le roi Charles XIV Jean en 1818, et c'est sous son règne que le compositeur suédois Franz Berwald avait écrit « La bataille de Leipzig » pour orchestre, partition dans laquelle il fait résonner l'hymne britannique, qui était également l'hymne suédois à cette époque. C'est l'orchestre de l'opéra de Malmö, dirigé par Niklaus Wilén, que nous entendions dans cette partition composée par Franz Berwald, compositeur suédois. La bataille de Leipzig, écrite en 1828, donc 15 ans après les faits. Et nous écoutions la conclusion de cette partition. D'ailleurs, un monument colossal avec un K sera érigé un siècle plus tard, un siècle après la bataille, en 1913 à Leipzig, avec, dit-on, une acoustique propice à la musique chorale. Les gens qui connaissent la vie de Leipzig, si chère au cœur des mélomanes, peuvent faire un tour du côté de ce bâtiment colossal, absolument incroyable. Alors l'étoile politico-militaire de Napoléon pâlit de plus en plus, mais sa légende se forge peu à peu sous la plume de grands écrivains de son temps, comme celle de Lord Byron, qui écrit à cette époque, en 1814, une ode à Napoléon, qui sera mise en musique par Arnold Schoenberg en 1942 pour dénoncer Adolf Hitler, tout comme Prokofiev en 1942 avait mis en opéra La guerre et la paix de Tolstoï qu'on écoutait hier. Ici, Byron évoque Napoléon, je cite, comme un démon orgueilleux, fléau de ses semblables, ténébreux génie, si longtemps obéi et si peu digne de l'être.
Fair freedom, we may hold thee dear. When thus thy mightiest foes their fear in humblest skies have shown, oh, ne'er may tyrant leave behind a knight a name to lure mankind. Thine evil deeds are written gore, not written thus in vain. Thy triumphs tell of fame no more, or deep in every stain. If thou hadst died, as honor dies, some new Napoleon might arise to shame the world again. But who would soar the solar height to set in such a starless night?
Some new Napoleon might arise. Un nouveau Napoléon pourrait se lever. Voilà un court extrait de cette ode à Napoléon Bonaparte d'Arnold Schoenberg avec le quatuor Arditi, le pianiste Stefan Litvin et Matthew Carey en récitant de ce poème de Lord Byron. La domination européenne de Napoléon vacille. Bientôt la France sera envahie à son tour. Mais le spectacle continue, si l'on peut dire. Ainsi, le 6 avril 1813, l'Académie impériale de musique, autrement dit l'Opéra de Paris, présente une nouvelle création signée Luigi Cherubini pour la musique et Victor-Joseph Étienne de Jouy pour les livrets. Il s'agit d'un opéra intitulé « Les Abencérages », dont l'action se situe en Espagne, dans le royaume musulman de Grenade. Maure de Grenade d'un côté, chevaliers catholiques espagnols de l'autre s'affrontent et l'œuvre va se heurter à l'actualité immédiate, ces abencérages étant présentés après la déroute espagnole de l'armée française. La censure va corriger de-ci de-là quelques vers qui pourraient faire penser aux événements contemporains, mais la partition sera bien chantée ce 6 avril 1813, tout comme fut enregistrée en partie par Roberto Alagna.
Suspendez à saignure mes armes, ma bannière, et du sol paternel, quand je vais me bannir, que cette voûte hospitalière conserve au moins, conserve au moins.
Troublant que ce texte de 1813 semble prémonitoire pour Napoléon qui sera exilé 2 ans plus tard à Sainte-Hélène. « Lieu chéri qui m'ont vu naître, vous ne me verrez pas mourir », on croirait Napoléon parlant de la France. Roberto Alagna a été accompagné par l'orchestre de Covent Garden dirigé par Bertrand de Billy dans le rôle du général Almanzor dans cet extrait de l'opéra « Les abancérages » de Luigi Cherubini créé à Paris en 1813. De janvier à mars 1814, la France est envahie par des alliés qui entrent dans Paris le 31 mars. Napoléon abdique à Fontainebleau le 4 avril. Il y fera de célèbres adieux à ses hommes, gardant son titre d'empereur et la souveraineté de l'île d'Elbe. Franz Schubert va célébrer aussitôt l'événement dans un lied intitulé « Les libérateurs de l'Europe à Paris ». « Die Befreier Europas in Paris, sie sind in Paris ». Ils sont à Paris.
Helden Europas Befreier, der Vater von Österreich, der Herrscher der Reusen, der Wiedererwecker der tapferen Preußen. Das Glück ihrer Völker, es war ihnen teuer, sie sind in Paris. Sie sind in Paris. Nun ist uns der Friede gewiss. Nun ist uns der Friede gewiss. Der Herrscher der Reusen, der Wiedererwecker der tapferen Preußen. Das
Glück ihrer Völker, es war ihnen teuer, sie sind in Paris. Sie sind in Paris. Nun ist uns der Friede gewiss. Nun ist uns der Friede gewiss.
Le baryton Martin Königsberger était accompagné au piano par Graham Johnson dans ce lead patriotique de Schubert, Les Libérateurs de l'Europe à Paris, Deutsch 104, Die Befreier Europas in Paris, sur un poème de Johann Christian Mikan.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Déjà à Waterloo, Napoléon dut se rendre. Tu es vainqueur et je perds la guerre, je ne peux plus fuir et t'échapper. En 1974, le groupe suédois ABBA, sujet de Sa Majesté Charles VI Gustave, descendant du maréchal Bernadotte, bref, le groupe ABBA remportait le concours de l'Eurovision avec ce Waterloo, qu'on connaît surtout dans ses versions anglaises, mais il y a aussi cette reprise en français qu'on vient d'entendre, Waterloo, ou alors, comme dirait l'autre, Waterloo, Waterloo, morne pleine, écrivait Victor Hugo après cette bataille de la dernière chance. Après l'exil sur l'île d'Elbe, le débarquement à Golfe-Juan, Napoléon et ses hommes remontent vers Paris dans ce qu'on a appelé le vol de l'aigle. Louis XVIII se réfugie à Gand et Napoléon revient au pouvoir en mars 1815 dans un pays plus divisé que jamais entre bonapartistes, jacobins, royalistes et autres. Comme à son habitude, Napoléon veut tout réformer. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il veut se montrer plus libéral que les libéraux en faisant abolir la traite des Noirs par un décret, lui qui avait rétabli l'esclavage en 1802. Mais bien sûr, son dernier grand rendez-vous avec l'histoire, c'est le 18 juin 1815, à quelques kilomètres au sud de Bruxelles. Face à lui, l'anglais Wellington et le prussien Blücher. 5000 morts de chaque côté et une déroute française à Waterloo, aussitôt évoquée en musique par Christian Friedrich Ruppe. Daniel Proper jouait ici « Entrevue des maréchaux Wellington et Blücher à la Belle Alliance », extrait de « La Grande Bataille de Waterloo », opus 23 de ce Christian Friedrich Ruppe, R-U-P-E, grand succès musical des salons de 1815. Bataille de Waterloo à laquelle assiste, sans vraiment y assister, Fabrice Del Dongo dans « La Chartreuse de Parme » de Stendhal, mais aussi le médecin de campagne de Balzac. Chateaubriand décrit la bataille dans les Mémoires d'Outre-Tombe et évidemment Victor Hugo dans ce vaste poème « L'expiation » que je citais, « Waterloo, Waterloo, morne pleine ». Cet effondrement, cette chute vertigineuse d'un géant haï par les uns, adulé par les autres, inspire de nombreuses plumes, notamment celle du poète allemand Heinrich Heine, qui, en 1811, avait vu l'entrée de Napoléon à Düsseldorf. Heine, qui ne cachait pas une certaine admiration pour l'empereur. Dans le poème « Les deux grenadiers », il imagine des grognards de la grande armée, de retour de captivité en Russie, et qui apprennent avec stupéfaction et même avec des larmes dans les yeux la capture de Napoléon, un poème mis en musique par Robert Schumann, mais aussi par l'inattendu Richard Wagner.
Longtemps captif chez le russe lointain, de grenadier retourné vers la France, déjà leurs pieds touchent le sol germain. Mais on leur dit, pour vos plis d'espérance, nos patries ont fait aux braves hommes qui s'en est fait de la France et de la grande armée, et rendre son épée l'empereur est captif et vainquis.
Ronald Schneider accompagnait le ténor José Carreras dans ce lied de Richard Wagner dont nous écoutions le début sur un poème de Heine. L'empereur est captif, l'empereur est vaincu. Alors soyons lucides, voilà une partition assez mineure dans la carrière de Wagner. En revanche, ce même poème de Heine, mais cette fois-ci en version allemande, a davantage inspiré Robert Schumann dans une partition de 1840 que nous allons écouter intégralement. 1840, année du retour des cendres de Napoléon à Paris sous la coupole des Invalides.
Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen, und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen. Da hörten sie beide die traurige Meldung, dass Frankreich verloren gegangen, besiegt und geschlagen das tapfere Heer, und der Kaiser gefangen. Da weinten zusammen die Grenadier, wohl ob der kläglichen Kunde, der eine sprach, wie weh wird mir, wie brennt meine alte Wunde. Der andere sprach, das Lied ist aus, auch ich möcht mit dir sterben, doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit besser Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser gefangen. Gewähr mir, Bruder, eine Bitt, wenn jetzt sterben wir, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit, begrab mich in Frankreichs Ehre, das Ehrenkreuz am roten Band sollst du aufs Herz mir legen, die Flinte gib mir in die Hand und gürt mir den Degen, so will ich liegen und harchen still, wie eine Schildwach im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wir darauf
Rosse getrabe, dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, wie Schwerter klirren und blitzen, wie Schwerter klirren und blitzen. Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen.
Le pianiste Gerold Huber accompagnait le baryton Christian Gerhaher dans ce lied de Robert Schumann qui cite la Marseillaise « Die beide Grenadiers », les deux grenadiers. Après leur retour de captivité en Russie, ces deux grenadiers apprennent donc en larmes l'arrestation de l'empereur. Napoléon est conduit dans cette île du bout du monde qui est Sainte-Hélène en Atlantique Sud, et le 5 mars 1821, à 51 ans, il s'éteint d'un cancer à l'estomac. Certains parlent d'un empoisonnement à l'arsenic, tout cela sous les yeux de son impitoyable geôlier Hudson Lowe, qui sera aussi impopulaire en France qu'en Grande-Bretagne. Cette date du 5 mai 1821 donnera d'ailleurs son nom à une œuvre de Hector Berlioz sur un poème fort médiocre de Béranger, une cantate intitulée « Le 5 mai » et qui obtiendra un beau succès en France dès sa création en 1835. Sainte-Hélène se présente devant ce bateau et voilà donc où languit le héros. C'est le baryton Nicolas Rivinck avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson, qu'on entendait dans les premières mesures de cette cantate de Berlioz le 5 mai, allusion au 5 mai 1821, jour de la mort de Napoléon. Et voici une autre partition qui porte en titre une date, c'est le 7 novembre, mélodie du russe Mili Balakirev, qui fait allusion au retour des cendres de Napoléon à Paris en 1840. Alors j'avoue ne pas trop savoir à quoi correspond ce 7 novembre, d'autant que c'est peut-être une date du calendrier julien. Si vous en savez davantage, eh bien écrivez-nous. En tout cas, cette mélodie de Balakirev a été composée sur un poème de Khomiakov et selon André Lischke, grand spécialiste de la musique russe, c'est, je cite, une méditation sur l'insignifiance des plus grands hommes en regard de l'éternité.
Когда мы разрыли могилу вождя и вызвали гроб на сияние дня, в нас сердце сжалось от страха. Казалось, лишь тронем свинец гробовой, лишь дерзко подымем преступной рукой покров с могучего праха. Сердитые волны вскипят на моря, сердитые тучи сбегут в небеса и век средь знойного поля. И снова польется потоками кров, и вставший всю землю потребует вновь моей железная воля.
Скрепляя свинец роковой, тогда рассилимый горькой слезой его доску гробовую. Как будто сложили под вечный покров всю силу души и всю славу веков,
и все гордыню людскую.
C'est la voix sépulcrale de Boris Christophe qu'on entendait là, avec au piano Alexander Tcherepnin dans « Sedmoye Noyabria », le 7 novembre, titre de cette partition de Mili Balakirev sur le thème « Sic transit gloria mundi », ainsi passe la gloire du monde.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors ce bicentenaire de la mort de Napoléon a donné lieu mercredi dernier à des cérémonies certes discrètes mais tout à fait officielles. Polémique sur Napoléon et Covid-19 oblige, l'année 1921 pour le centenaire fut plus propice aux célébrations. Premier hommage national sous un règne républicain, sous un régime républicain. Le retour des cendres ayant été fait sous Louis-Philippe, le centenaire de sa naissance en 1869 sous le Second Empire. Donc en 1921 sont organisées des messes, des colloques, des discours, des défilés militaires devant l'Arc de Triomphe, et puis des concerts où sont jouées des œuvres spécialement conçues pour l'événement, comme cette marche triomphale de Louis Vierne pour le centenaire de la mort de Napoléon Ier. L'orgue de Pierre Pincemaille et les cuivres de Haute-Seine dans un extrait de la marche triomphale de Louis Vierne pour le centenaire de la mort de Napoléon Ier, œuvre de 1921, donc de, œuvre de circonstance qui n'a pas connu une grande postérité, contrairement au chant funéraire que Gabriel Fauré écrit au même moment, pour cette même occasion, pour un orchestre d'harmonie joué sous les voûtes de Saint-Louis des Invalides face au tombeau de l'empereur. Alors cette partition pour orchestre d'harmonie de Fauré a été certes enregistrée une fois, mais on la connaît très peu. En revanche, il faut savoir que Fauré était à juste titre très satisfait de cette musique, et si satisfait de cette musique d'inspiration napoléonienne, qu'il en a fait le mouvement lent de sa seconde sonate pour violoncelle et piano. Thank you. le pianiste Jean Hubeau et le violoncelliste Paul Tortelier interprétaient le deuxième mouvement andante de la seconde sonate pour violoncelle et piano de Gabriel Fauré, son opus 117 en sol mineur, dont la mélodie s'inspire donc d'un chant funéraire composé en 1921 pour le centenaire de la mort de Napoléon. Après la mort de l'empereur, les regards des bonapartistes se tournent vers son fils, le roi de Rome, comme on avait surnommé à sa naissance ce Napoléon II, qui sera Napoléon II pendant seulement 15 journées de 1815. Son grand-père, empereur d'Autriche, François II, lui donnera le titre de duc de Reichstadt et il meurt en 1832 à 21 ans d'une tuberculose, d'une pneumonie, laissant de nouveau la légende s'emparer de lui, une légende qui sera écrite notamment par Edmond Rostand, le fameux père de Cyrano de Bergerac, qui écrit en 1900 L'Aiglon, une pièce de théâtre qui sera interprétée par Sarah Bernhardt. D'ailleurs, des enregistrements sonores en témoignent, des documents absolument fascinants. Et puis en 1937, à l'Opéra de Monte-Carlo, est présenté un opéra, un drame lyrique inspiré de L'Aiglon de Rostand, un drame lyrique en 5 actes sur une musique d'Arthur Honegger et de Jacques Ibert. Pour chanter L'Aiglon, on fait appel à une soprano, puisque c'est une voix d'adolescente qui est demandée. Alors, qui a fait quoi dans cette partition entre Honegger et Ibert? Il répondait l'un a fait les dièses et l'autre a fait les bémols. Mais on sait quand même que la partition que nous allons écouter, un extrait du 4e acte, et d'Arthur Honegger. Elle évoque l'aiglon qui se retrouve sur la plaine de Wagram en plein délire, et s'imaginant revivre la victoire de son père.
Tressagne, c'est le champ de bataille.
Vive l'empereur, crie outre-tombe les soldats de Wagram en chantant la Marseillaise et le chant du départ de Méhul. C'est Anne-Catherine Gillet qui chantait le rôle de l'aiglon dans cette partition avec le chœur et l'orchestre symphonique de Montréal dirigé par Kent Nagano pour le quatrième acte de cet aiglon. En 1937, Arthur Honegger avait utilisé un extrait de la musique qu'il avait écrite 10 ans plus tôt pour le Napoléon d'Abel Gance, l'aiglon Napoléon II, dont les cendres seront déposées aux Invalides par Adolf Hitler en 1940, un siècle après le retour des cendres de son père. Et ainsi s'achève cette série d'émissions à retrouver sur francemusique.fr. Lundi, nous commencerons une série de 3 émissions sur le violoniste Teddy Papavrami.
À réécouter sur francemusique.fr.